Salut tout le monde, bienvenue au Trio économique, tel que prédit dans la section Patreon de Yann et Frank. Vincent a fucké ses systèmes de son avant d'entrer en onde. Donc on en a eu pour 5 minutes à régler son code 18, donc on commence avec 8 minutes de retard. Tel que prédit, comme on vous l'avait dit, aux amis du Patreon.
Puis t'as peu même, ça n'a pas l'air réglé encore parce qu'on ne l'entend pas en ce moment.
On l'entend plus.
Je ne sais pas sur quoi il a touché.
Qu'est-ce qu'il a fait encore?
Turn same old shit, comme dirait Phil Kessel.
Ah ben oui, là on t'entend.
Je pense qu'il y a un problème. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas trop que tu y touches. Il y a comme un fuck avec le fil du micro, je ne sais pas trop. Pourtant, il est neuf, ce Christy de micro-là. Mais...
Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Vous allez voir, les gens vont être agréablement surpris. Il n'y aura pas de publicité sur YouTube ni sur Facebook. Pourquoi c'est comme ça? C'est un épisode qu'on fait démonétiser parce qu'on veut parler de sujets qui sont tabous pour les grandes plateformes et les annonceurs. Donc, les deux épisodes sont entièrement démonétisés. Vous ne serez pas achalés par de la publicité. Ça veut aussi dire qu'on n'aura pas de revenus publicitaires de notre côté. C'est pour ça qu'on vous incite à utiliser les étoiles sur Facebook pour nous aider à compenser. Et également, les super tanks sur YouTube qui vous permettent justement d'encourager des créateurs qui, de temps en temps, pourraient vous produire du contenu démonétisé. Ça veut dire de parler de sujets un peu tabous. Vincent, de quoi justement tu voulais nous parler qui fait en sorte qu'on passe pour des gros méchants présentement sur le web?
Juste pour expliquer aux gens là, c'est quoi là, les super tanks, ce qu'ils voient peut-être bien pas. Là. Quand tu cliques sur une vidéo sur YouTube, tu as un genre de petit python ici là, qui s'appelle Merci et que tu peux l'utiliser. En gros, c'est ça. Pendant qu'on voit un gars, ça me donne soif, c'est un gars qui boit de la bière. Ça, tu vois aussi, je pense que c'est un truc qu'on n'a pas le droit de faire. Mettons qu'on prenait mettons que je montrais des canettes d'alcool ou des affaires, on pourrait se faire.
On peut pas boire.
Ben, on peut boire, mais en tout cas, si tu fais comme la promotion d'un truc de même, tu peux être.
Parce que dans les lives du mercredi soir, souvent, je buvais une bière à même la canette.
Ouais, mais tu vois, j'ai vu quand on voit la marque comme faux, j'ai même vu des vidéos, les gens les blurent.
Ah, ok, si j'avais fait ça comme ça. Et là,
excusez Yann, les gens les floutent parce qu'il y a des gens qui nous regardent juste pour noter mes anglicismes. Là, fait que je vais essayer de faire attention aujourd'hui. Alors, ils les floutent. Mais c'est un peu spécial parce que, tu sais, Vincent, quand tu as proposé ce sujet-là, moi, je me suis dit que c'est un super bon sujet, entre autres à cause de l'actualité. Mais les gens ne savent pas que les systèmes de censure des grandes plateformes. En fait, il n'y a pas vraiment d'être humain souvent qui fonctionne en arrière de ça et il ne repère que des mots-clés, soit dans l'analyse de la vidéo ou dans la description. Puis ils peuvent, dans le fond, démonétiser tes vidéos simplement à cause de ce que tu abordes. On l'a vu, entre autres, à un moment donné, notamment aussitôt qu'il y avait le mot « Ukraine » ou quelque chose de même dans les vidéos Facebook, c'était automatiquement, ils enlevaient la pub dans tes vidéos parce que là, c'est comme sujet sensible.
Facebook est beaucoup plus sensible que YouTube. Mais là, le sujet qu'on parle aujourd'hui, définitivement, ça passe pas sur YouTube non plus.
Oui, surtout que le hook est particulièrement... est un peu sensible dans les médias dernièrement.
Oui, absolument. Fait que c'est ça. Dans le contexte de ce qui s'est passé à Buffalo, tu voulais qu'on parle, Vincent, du contrôle des armes à feu.
Oui, parce que ça fait une couple de fois qu'on broche le sujet en gang ici, puis je m'étais dit, on n'a jamais vraiment dédié une discussion à la chose en soi, puis avec la tuerie qu'il y a eu en fin de semaine, donc pour ceux qui écoutent sur Facebook, on est le 19 mai aujourd'hui, donc c'était le week-end passé qu'il y a eu un cinglé qui est allé à un centre d'achat à Buffalo, puis qui a décidé, pour des raisons raciales, de tuer, je pense que le chiffre, c'est 10 personnes. Ça n'a pas pris 5 minutes que tu as eu plein de gens qui ont essayé de faire du capital politique sur l'événement. Puis un des groupes qui l'a fait, c'est... les deux groupes qui l'ont fait, c'est les pro-guns puis les anti-guns. Les pro-guns disent, tu vois, par exemple, le garde de sécurité n'avait pas été armé, ça aurait été peut-être encore pire parce qu'il y a un garde de sécurité qui a été tué puis il a réussi à décharger son arme sur l'assaillant, mais l'assaillant avait un gilet pare-balles. Donc, les conservateurs disent, s'il y avait une chance qu'il était armé, ça aurait été encore pire sinon. De l'autre partie, tu as les gens, tu vois, c'est ça un signe qu'il faut un contrôle des armes à feu. Puis ça commence à m'énerver parce que chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Puis il n'y a personne qui participe à cette conversation-là, qui lit la littérature.
Avec le président démocrate, ça semble un peu moins pire, les demandes sur le contrôle des armes à feu. Est-ce que je me trompe?
Je ne le sais pas, ça. Écoute,
c'est la réaction de la société civile semble quand même un peu moins prononcée, dans le sens qu'il n'y a personne qui a dit « Ah, c'est de la faute à Biden à cause qu'il légitime ce discours-là », ce qu'on aurait très probablement eu avec n'importe quel président républicain, là, soyons francs.
Oui, bien, écoute, ça, étant donné l'opinion que l'assaillant a mis dans son manifeste, c'est dur d'imaginer que tu pourrais dire que c'est Biden qui a créé ça comme discours. Le gars, c'est vraiment... Écoute, c'est un cinglé d'extrême droite. Là. Il n'y a aucun...
Il y a déjà des gens, par exemple, qui ont fait des attentats, puis ils avaient écrit des... je pense entre autres un gars en Australie ou en Nouvelle-Zélande qui avait écrit des trucs genre environnementalistes un peu extrêmes. Tout ça, mais il n'y a jamais personne qui est allé dire « Ah, les groupes environnementaux ont du sang sur les mains d'avoir radicalisé quelqu'un comme ça. » Entre autres, les Unabombers de ce monde. Là. Le gars, c'est un freak écologiste complètement cinglé.
Avant qu'on parle des armes à feu, c'est quand même une tendance. Écoute, dans les années 90, il y avait des conservateurs qui essayaient de blâmer Al Gore pour le Unabomber. Mm-hmm. Puis quand Timothy McVeigh a essayé de faire exploser, il a réussi à faire exploser j'oublie c'était quoi le ministère qui était là, je pense que c'était un bureau du FBI, mais la bombe qui avait éclaté à Oklahoma City, qui avait tué 200, 300 personnes, t'as des gens à gauche qui ont essayé de blâmer ça sur Rush Limbaugh, parce que Rush Limbaugh était à droite, puis le gars était un terroriste qui se disait, tu sais, anti-État, donc... Je veux dire, c'est comme une trope qui revient de manière récurrente. C'est,
puis
On politise.
Puis la chose aussi qui est récurrente là-dedans, moi, que je trouve très désagréable, c'est peu importe de quel bord, on a toujours tendance à complètement effacer la responsabilité individuelle dans ce genre de geste.
Oh oui, c'est parce que c'est Tucker Carlson. Ouais, exactement.
C'est Tucker Carlson, c'est Al Gore. À Québec, c'était la radio avec la mosquée. C'est toujours... les individus n'ont aucun libre arbitre. Ils sont toujours influencés par les autres. C'est toujours des gens qui ont une influence ou une ingérence, induite sur eux. Dans le fond, ils ne sont jamais responsables de rien. C'est toujours à cause de tel pan de la société, à cause de tel groupe, à cause de tel média, à cause de tel groupe. Là, tu te dis, mais c'est parce que les gens aussi ont les gens sont responsables de ce qu'ils font. Et si moi, je pose des gestes qui sont répréhensibles, c'est de ma faute à moi, pas de la faute
société,
à Yann.
La société aussi est en partie responsable. Je veux dire, il y a eu un mouvement de désinstitutionnalisation. Hey, je suis tout qu'un gars de radio, j'ai dit le mot sans me planter. Mais je veux dire, on a des gens qui sont malades entre les deux oreilles, puis qu'on a de la misère à soigner, sérieusement, puis on a de la misère à s'occuper de ces gens-là. Puis...
Ben, c'est le cas, entre autres, de ce gars-là. Là. Je ne ferais pas croire que je suis un expert du dossier, là, mais de ce que j'en ai compris, entre autres, ce que j'avais lu, le gars qui avait fait le truc à Buffalo, là, il y avait des antécédents de comportement que tu pourrais qualifier de sociopathe ou psychopathe, là, entre autres de la torture animale quand il était enfant, ce genre de truc-là. Ce qui est des patterns que tu vois souvent, dans le cas de... Je ne sais pas si vous avez écouté le documentaire un peu romancé là, qu'il y avait sur Netflix, « Making a Murderer », sur l'histoire du gars qui se ramasse en prison. C'est-tu lui, c'est-tu pas lui? Et comme par hasard, quand tu t'intéresses au dossier, il coche toutes les cases de ce que tu t'attendrais d'un psychopathe. Entre autres, à un moment donné, il avait pitché un chat dans un feu quand il était adolescent. Tout ce qui est dans le jeune âge qui touche à, par exemple, la torture animale, ce genre de trucs-là, c'est toujours des comportements que tu peux voir chez quelqu'un. Je ne te dis pas que ça aboutit tout le temps dans des événements comme on a vu, mais c'est des comportements typiques de gens qui ont des caractères sociopathes ou psychopathes. Puis, à un moment donné, tu te dis, mais comment c'est possible que ces gens-là puissent agir de même, que ça aboutisse 10 ans, 20 ans plus tard à des tragédies? Puis il n'y a personne qui a jamais pris ça en charge, il n'y a rien qui s'est passé. C'est sûr qu'il y a une responsabilité du milieu là-dedans, mais de là à enlever la responsabilité de la personne qui a commis ces gestes-là, puis aller dire, ben écoute, s'il a fait ça, c'est de la faute à Tucker Carlson. Come on. Come on.
Écoute, attends une minute. Il y a bien des affaires que, qui valent la peine d'être mentionnées. La première chose, c'est que j'ai envoyé dans le chat, je t'ai envoyé un lien. C'est la première chose. Puis je pense que ça vaut la peine d'en parler. Là. Okay. C'est un truc du Philadelphia. Ah, il ne te laisse pas voir l'image.
Ouais, il ne me laisse pas voir. Ben, attends un peu.
Je peux t'envoyer l'image tout seul. Là. L'idée, c'est que quand tu regardes depuis 1994, il y a plusieurs bases de données qui existent, qui évaluent le type de crime qui est commis. Tu checkeras le dernier lien que je t'ai envoyé. Les crimes commis, des actes terroristes aux États-Unis en fonction de l'idéologie de l'assaillant. Et ce qui semble être, c'est qu'il y a une corrélation vraiment faible entre idéologie et la fréquence des événements. Donc, la distribution n'a pas l'air d'être skewed du côté extrême droite ou extrême gauche. Il y a des vagues.
On dirait que par séquence, par contre, les couleurs changent.
C'est ça. Il y a l'air d'avoir des vagues. Et une des choses qui vaut la peine d'être soulignée, ça, c'est qu'il y a deux choses qui semblent souvent alimenter des actes terroristes, c'est des actes terroristes précédents. Donc, disons que je suis un terroriste musulman et que je commets un acte extrême, ben je vais illiciter probablement une réponse extrême d'un groupe qui voit ça négativement, disons un groupe islamophobe directement, qui, eux, vont réagir comme ça.
Mais là, ça va être classé, mettons un acte terroriste là, qui est revendiqué au nom d'ISIS, que ça serait classé dans quoi? Right wing ou left wing?
Others, dans ce truc-là. Il y a d'autres... ça, c'est le premier graphique que j'ai parce que je connais la base de données par cœur sur celle-là. Parce que j'avais travaillé avec.
J'avais l'impression que c'était plus médiatique qu'on voyait une hausse des actes terroristes à l'intérieur du pays. Donc, tu sais, quand on a une loupe qui est plus mise sur l'emphase, donc on a l'impression qu'il y en a plus, mais il n'y en a pas réellement plus. Mais quand on regarde ta base de données, non, depuis 2010 à peu près, il y en a plus.
Mais l'affaire, c'est qu'il faut faire attention avec ce graphique-là sur un truc. Ce graphique-là commence en 94. Puis c'est la première base de données qui a vraiment des trucs plus systématiques. Donc, c'est la meilleure. Mais quand tu peux regarder les bases de données un peu moins bonnes qui sont pré-1994, tu vas trouver à peu près les mêmes cycles qu'il y a l'air d'avoir, que sur le long terme, il n'y a pas l'air d'avoir de distribution pro ou contre. Puis il suffit de se rappeler, c'était que les groupes terroristes aux États-Unis du fin des années 80, début 90, c'était Unabomber, mais tu avais aussi le Weather Underground, qui était des groupes de gauche. Dans les débuts des années 90, après, ça laisse la place à des Timothy McVeigh, à l'histoire de Ruby Ridge. Ruby Ridge, ça ne rentre pas là-dedans, mais dans l'imaginaire de l'extrême droite un peu débile. La droite jambon, là, on peut dire. Ruby Ridge, ça avait eu un gros effet. Donc, le siège de Waco au Texas aussi. Donc, il a l'air d'avoir des cycles. Mais dans le long terme, quand on regarde, là, la relation a l'air d'être vraiment faible. Ce qui laisse
c'est à suggérer... Ce n'est pas des corrélations, par exemple, entre le président en place ou quelque chose comme ça. C'est vraiment plus la personne qui a commis un acte réellement spectaculaire va avoir motivé beaucoup de gens à en commettre des plus petits dans la même direction.
Oui, puis il y a deux raisons qui me permettent de dire ça. Là. La première, c'est que c'est les cycles que je mentionne. Le fait que ça a l'air de un cycle précédent cause le cycle subséquent. Mais il y a aussi le fait que l'autre article que j'ai envoyé à Frank, qui est celui, c'est le sciencedirect.com, qui est un article dans Journal of Public Economics. Puis cet article-là, je l'adore. Ça fait 5-6 ans que je l'utilise au moins une fois par mois, soit pour enseigner des fois, parce que la méthode est super, mais des fois aussi pour montrer l'importance de ce qu'on appelle le biais d'endogénéité. C'est que des fois, tu peux voir des corrélations, mais tu ne sais pas dans quelle direction. Puis tu peux dire qu'il y a un effet causal, mais tu ne sais pas dans quelle direction l'effet causal va. Et là, l'idée ici, c'est que la personne regarde, est-ce que c'est les actes terroristes qui causent les mentions médias ou est-ce que les mentions médias causent les actes terroristes. Naturellement, il va y avoir une relation qui va dans les deux sens. On s'attend à ce que les médias vont en parler parce qu'il y en a, mais on va aussi s'attendre à ce qu'il va y en avoir un peu qui vont se produire parce que les médias en parlent.
C'est un effet un peu qu'on voyait au niveau des suicides. Hein. Je pense qu'on parle beaucoup moins des suicides dans les médias parce qu'on voyait cette tendance-là, qu'il y avait une vague de suicides subséquentes après un suicide qui était quand même assez spectaculaire. Je me trompe-tu?
Je sais pas, ça, c'est une bonne question, mais ça confirmerait à peu près la même logique. S'il y en a un article qui fait ça, je serais prêt à croire. Je trouverais que ça serait quelque chose qui ajoute à ce qu'on dit. Puis intuitivement, ça fait du sens parce qu'il y a beaucoup de suicides que, bon, il y en a que c'est des suicides de détresse, mais il y en a que c'est des appels au secours que les gens ont ou, dans certains cas, c'est des sortes de manières de « je veux qu'on sache X de moi ». Donc, tu sais, je peux voir une motivation d'attention. Aussi, tu sais, ça serait probablement encore plus fort, je suis sûr, si tu incluais les murder-suicide. Donc, par exemple, je ne sais pas si Valérie Fabricant rentrerait là-dedans, mais le gars qui était allé tirer à Concordia, là, le prof de Concordia. Je ne sais pas si à la fin, il s'est suicidé. Mais disons, un tueur en série qui va tuer 5-6 personnes avec l'intention de soit se faire tirer par les policiers ou par la suite de se tirer lui-même, ça rentrerait dans les deux types d'études. Probablement que les résultats se renforceraient. Mais celle que je te mentionne dans Journal of Public Economics, ce qui montrait, c'était un effet très fort dans la direction que, oui, les médias vont en parler parce qu'ils se sont passés, mais les médias sont beaucoup plus importants dans la relation que pour causer les actes terroristes que l'inverse. C'est pour ça que, le résultat que tu arrives, Quand tu le regardes, c'est, je pense, je cherche le chiffre dans l'article, là, c'est en utilisant le coverage du New York Times, qui est quand même un des journaux les plus lus internationalement. Mm-hmm. Un article de plus augmente le nombre d'attaques dans la semaine subséquente par 1,4. Donc, tu as 1,4 attaques extra qui mènent à 3 casualties. Puis casualties, c'est pas mortalité, c'est blessure / décès. Là. C'est tout ce qui implique une violence qui est causée à une personne.
Être réellement de mauvaise foi, là, je pourrais dire, les médias ont du sang sur les mains.
Si tu veux, moi, écoute, je suis pas mal à l'aise avec ça comme position parce que les médias.
Mais je le ferai pas, là, tu vois, on s'entend.
Ben écoute, c'est peut-être. Tu viens de me donner le segue pour le truc sur les armes à feu. Puis ça, c'est le test que j'ai tout le temps. Parce que. Je dis à mes étudiants souvent, tu n'as pas besoin que quelque chose soit vrai pour que les gens agissent sur une information fausse.
Ben
il suffit que le coût de corriger la mauvaise information soit supérieur au bénéfice de la croyance erronée que tu as. Dès que tu as ça, tu peux avoir des gens qui ont des patterns dans lesquels ils persistent dans une erreur factuelle. Le meilleur exemple
que je peux donner, s'obstiner qu'un complotiste. C'est trop lourd. C'est trop lourd à faire, donc tu refuses de le faire.
C'est même pas trop lourd, Yann. C'est que peu importe ce que tu vas dire, ça va renforcer son biais de confirmation. Parce que le présupposé est tel que, si t'es pas d'accord avec moi, c'est que t'es un agent infiltré ou une opposition contrôlée ou ce genre de truc-là.
Okay. Ben, écoute, si tu veux un bon exemple, les complotistes et les militants de partis politiques, parce qu'ils sont analytiquement la même chose, c'est-à-dire que t'as des super gros bénéfices de faire partie d'un groupe, les autres complotistes, les autres membres d'un parti politique, tu as des bénéfices très clairs, très bien définis. Mais c'est quoi le coût de croire quelque chose de stupide? Si je suis membre de, disons, le Parti conservateur du Québec, je crois factuellement qu'avoir plus d'immigrants réduit les salaires. Alors que quand tu regardes la littérature empirique, non.
Plus la CAQ, ça dirait, mais bon.
Ouais, c'est plus la CAQ.
Ben, PCQ, la CAQ dernièrement, parce que le premier ministre nous a montré sa grande érudition économique une énième fois.
Tu l'as écouté, la vidéo?
J'ai écouté la clip pendant 3 minutes, puis après ça, j'ai entendu où ça s'en allait. Puis comme je conduisais, j'avais pas envie de faire de la rage au volant, même si les gens autour de moi étaient très corrects, juste parce que François Legault, parce que ça m'a tellement fait fâcher, parce que c'est une trope récurrente, mais empiriquement, il n'y a aucune... Généralement, l'effet de l'immigration sur les salaires est quelque part entre zéro et un
focus,
petit.
Focus, focus, tu vas dévier, tu vas dévier. Les ouais. armes à feu.
Mais tu sais, des histoires fausses comme ça, les gens en croient des tonnes. Oui, effectivement. Hein, les gens en croient des tonnes de trucs faux. Mm-hmm. Mais si tu les. Si tu n'as aucun coût à croire ça, c'est-à-dire que. C'est quoi le fait que je crois quelque chose de factuellement faux? C'est pas moi qui paye le frais d'avoir des croyances stupides sur l'immigration, ou c'est pas moi qui paye la croyance stupide comme les gens de Québec solidaire sur l'austérité. C'est pas moi qui paye la facture sur les paradis fiscaux. C'est pas moi qui paye la facture, mais j'ai le bénéfice d'être membre du groupe. Généralement, ce qui est intéressant, c'est quand tu fais changer les coûts pour les personnes. Il y a beaucoup de complotistes qui cessent d'être complotistes quand leur revenu peut augmenter de manière significative. Mais un exemple de ça, c'est quand tu demandes aux gens est-ce que les crimes diminuent? Le taux d'homicide, par exemple. La vaste majorité des gens, tant au Québec...
vont dire que ça augmente.
Ils vont dire soit que ça n'a pas diminué ou que ça augmente, alors que en réalité, ça a baissé.
Même chose
clairement.
Pour la pollution.
Même chose pour la... Ça dépend. Les gaz à effet de serre, ça augmente, mais si tu leur demandes genre le smog, ils vont...
Mais ça augmente globalement, localement, des places, ça diminue.
Oui, aussi, tu sais, mais c'est ça, les gens ont des croyances factuelles qui sont généralement incorrectes. En fait, les gens ne sauraient pas qu'aux États-Unis, tu leur dis que les États-Unis polluent plus que dans le passé. En fait, depuis 10 ans, les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, c'est presque une flatline.
Le livre Factfulness, hein, Frank?
Ça revient tout le temps, ça. Hey, mais tu sais, l'affaire de ramener les...
le point, c'est sur les crimes, là, le seul groupe que si tu prends le nombre de mentions médias des crimes puis tu le divises par la population, ça a l'air d'augmenter. En fait, ça augmente massivement. Donc, les gens ont une perception intense de criminalité, même si les crimes diminuent.
Les crimes ont diminué.
Yep.
Sauf que quand tu regardes le nombre d'articles médias, puis tu contrôles ça en fonction de la hausse de la population, là, de ce que je comprends au fil des années, ce que tu te rends compte, c'est que pour chaque individu, il y a plus de mentions médias présentement qu'en 1970, par exemple.
Exactement. C'est exactement ça. Puis ouais. C'est un ordre de magnitude. Là. C'est genre, tu as une baisse de peut-être 30-40% du taux de crime, alors qu'en réalité, les gens pensent que ça a augmenté un petit peu depuis genre le début des années 90, alors que ça n'arrête pas de tomber depuis clairement le début des années 90. Les gens ont vraiment une très mauvaise perception de ça, en grande partie parce que les médias communiquent la chose d'une manière absolument atroce, ce qui affecte beaucoup le sujet qu'on a aujourd'hui sur le contrôle des armes à feu, mais vraiment beaucoup. Mmh. Les gens pensent qu'il y a une augmentation incroyable et effarante du nombre de crimes par arme à feu, alors que tu regardes StatsCan, pas de tendance très claire. En fait, ça a l'air de baisser depuis le début des années 90. Je t'envoie un des liens. Vas le voir. Les gens vont penser que ça augmente, mais quand tu regardes en réalité, le nombre de shootings est en fait plus bas qu'au sommet en 96. Puis il n'y a pas l'air d'avoir de tendance à long terme. Même chose sur
stabbing, sur les stabbings, c'est le poignardé et ce genre de trucs-là.
Fait que, tu sais, les gens, non seulement ça, mais si tu leur demandes le niveau en plus, parce que là, c'est pas juste la direction, tu leur demandes le niveau, les gens vont être encore pires sur le niveau que sur la tendance. Parce que la tendance, tu peux juste dire, t'as trois choix. Ça change pas, ça baisse ou ça augmente. Ouais. Tandis que le niveau, t'as un nombre beaucoup plus large d'erreurs que tu peux commettre, des erreurs catégoriques que tu peux commettre.
Mais je pense qu'on pourrait prendre ça, Vincent, pour pratiquement tous les phénomènes de société auxquels... qu'il n'y avait pas beaucoup de couverture avant, soit médiatique ou même dans le langage populaire, ça donne l'impression tout le temps que c'est pire. Tu pourrais prendre tout, là, je sais pas moi, les troubles de déficit de l'attention, les meurtres des femmes, les féminicides, toutes ces patentes-là. Avant, on ne parlait pas de ça. T'sais, mettons sur Trude, il y a 30-40 ans, troubles de déficit de l'attention, ça n'existait pas dans le langage commun. Donc, à un moment donné, quand tu commences à en parler et à mettre un mot sur une réalité, ben là, tu as l'impression que non, tout le monde autour de moi a ce problème-là. Parce que tu en entends parler alors qu'avant, tu n'en entendais pas parler. Donc, ben ça écoute, crée un genre de prise déformante.
C'est drôle que tu dises ça. J'ai eu la même conversation à un moment donné. Il y avait une fille on va ouvrir une petite parenthèse. Il y avait une fille de l'Iris qui m'ostinait. Naturellement, c'est de la très grande qualité de conversation. Elle dit, ben, les taux de dépression augmentent depuis les années 70. Je dis, tu sais aussi que c'est qui a baissé depuis les années 70? La stigmate sociale qu'on met sur les gens qui souffrent de dépression. C'est-à-dire que tu avais probablement plein de gens avant 1970 et bien avant qui se cachaient quand ils souffraient.
Il appelait ça des mélancoliques.
Ouais, ben en fait, Winston
Churchill. Il y a des compagnies d'assurance qui ont passé proche de la faillite début des années 90 à cause de l'éclosion des réclamations d'invalidité pour troubles dépressifs ou des choses comme ça. Et la cause, c'était pas que soudainement tout le monde est en dépression.
Il n'y a pas une pandémie, c'est que les gens.
La stigmate est
enlevée. Puis ouais. C'est une bonne chose, là. Dans ce cas-ci, je veux pas être plate, mais ça, c'est un exemple dans lequel l'augmentation du taux rapporté, pas le taux réel, l'augmentation du taux rapporté de dépression est une excellente chose dans ce cas-là. Si le taux réel a baissé ou pas changé, c'est excellent. Ça veut dire, même s'il a augmenté un petit peu, mais que le taux rapporté augmente, ça veut dire que finalement, les gens arrêtent de souffrir en silence. Ça a une valeur.
Je veux revenir deux secondes sur un enfant. Ouais. Au début, on a partagé un graphique, là, dans le fond, sur si c'était des far right, left right, left wing violence, là, puis dans le fond, à quel groupe tu peux, entre guillemets, à quelle famille idéologique tu peux rattacher ça. Mais moi, je me demande tout le temps jusqu'à quel point il y a vraiment une étude ou réflexion de l'appartenance idéologique de ces gens-là. Puis je peux prendre trois exemples de même à brûle pour point, parce que en surface, bon, rapidement, on va dire, OK, lui, regarde, il a tenu des propos racistes, donc c'est un gars d'extrême droite ou vice-versa. Mais regarde, je peux te prendre trois exemples. Denis Lortie rentre avec des guns à l'Assemblée nationale dans le but d'exécuter le cabinet Lévesque. En surface, tu peux te dire, ben, c'est un fédéraliste enragé qui en avait contre les souverainistes. En réalité, si tu lis le dossier, le gars était persuadé que le PQ complotait contre la souveraineté du Québec pour faire disparaître le peuple canadien-français. Alexandre Bissonnette, tu regardes ça, tu dis, bon, le gars est rentré dans une mosquée, bon, attentat raciste, ça. Première affaire qu'on a su quand on regardait qui il suivait sur les réseaux sociaux, quel contenu il consommait avec l'analyse de son Facebook, tout, il suivait beaucoup de gens de gauche. Bon, là, tu dis, étais-tu de droite? C'est dur de trouver l'appartenance idéologique.
La seule affaire qui était particulière dans le cas de Bissonnette, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont dit « Wow, belle opportunité de taguer une radio qu'on n'aime pas là-dessus. »
Exactement. Una Bomber, quand tu regardes le discours, bon, écologiste, extrémiste, anti-développement, puis toi, tu dis « Bon, ben, c'est le discours de la décroissance, c'est le discours des écolos, tout. » Par contre, quand tu lis son manifeste, « La société industrielle et son avenir », il dit aussi que le progressisme, c'est une maladie mentale. Fait que là, où est-ce que tu situe idéologiquement. Moi, je pense qu'il y a un gros problème là-dedans, c'est qu'on présuppose que les gens qui font des choses comme ça ont une cohérence idéologique alors que c'est complètement faux. En général, c'est des gens complètement mêlés. Je ne sais pas s'il y en a vraiment, là, des gens qui font des attentats et qui, dans leur tête, ont une structure là, puis qui se disent « Moi, regarde, c'est à ce groupe-là que j'appartiens. » Mais non, ils n'en ont pas.
Par définition, ils n'en ont pas. C'est de l'extrême. C'est des gens qui sont en troubles mentaux. Puis, l'affaire, c'est la chose suivante. Prends Tucker Carlson. M'aime pas. Bon, clairement à droite, parfait. Est-ce que le gars est un extrémiste de droite? Ben non, il peut pas être un extrémiste de droite, sinon il pourrait pas passer à TV puis il pourrait pas être un des shows de télé les plus populaires aux États-Unis. Est-ce qu'il est polémiste? Oui. Est-ce qu'il exagère quand il parle? Oui. Mais est-ce que c'est un extrémiste? Non, il peut pas être extrémiste puis attirer autant de gens dans ses affaires. Fait que, normalement, si tu veux le situer centre-droite, droite, ça va être les bons qualificatifs. Tu ne peux pas dire extrême-droite à un gars qui est mainstream. L'affaire, c'est qu'on présuppose toujours que ces gens-là qui sont mainstream, qui sont plus proches du centre qu'on pense, parce que pour attirer autant de monde, il faut que tu sois relativement proche du centre, créent ces bébites-là extrémistes. Puis ça, c'est fallacieux là, comme lien. C'est complètement fallacieux.
Ouais, écoute, check bien. Il y a quelque chose que je pense que ça vaut la peine, puis après, on pourra clore sur les motivations du terroriste, puis voir, tu sais, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour l'empêcher de faire ça. Pour j'envoie ça à Frank là, dans le chat. C'est ça, j'aimerais ça vraiment que quelqu'un fasse ça, parce que je sais que ça ne s'est pas fait encore, mais si quelqu'un pouvait le faire, ça serait incroyable. J'ai envoyé ce que tous les libertariens aiment énormément, le Nolan Graph, qui établit sur deux axes le niveau de liberté économique que tu veux avoir puis le niveau de liberté personnelle que tu veux avoir. Puis si tu es dans le groupe de gens qui veulent beaucoup de liberté économique puis beaucoup de liberté personnelle, tu es un libertarien. Puis si tu veux que les gens aient aucune liberté civile puis aucune liberté économique, ben tu es un communiste, un autoritaire, tu es dans ce groupe. En fait, je suis pas sûr que je mettrais communiste si extrême dans certaines libertés civiles, là, mais mettons, t'es un authoritarian, c'est vraiment le bas de la...
Selon cette grille de lecture-là, extrême droite et extrême gauche ont beaucoup plus en commun ensemble que ce qu'on dit extrême droite, extrême gauche. Parce que en réalité, dans ces groupes-là, là, les gens qui font des attentats, mettons que c'est vraiment au nom de ces groupes-là, il n'y a personne qui aime la liberté là-dedans.
Non, en effet. Puis c'est pour ça que j'aimerais vraiment ça que quelqu'un fasse ça comme étude. C'est que tu essaies de peupler le Nolan Graph, mais avec uniquement des suprémacistes blancs. La raison que je dis ça, c'est quand tu regardes les actes terroristes aux États-Unis, là, donc je prends tous les actes terroristes depuis 1975, selon le Census Bureau, 108 pour l'islamisme, 11 pour des formes de foreign nationalism, ça serait par exemple Irish Republican Army, 190 de droite, 6 de religieux mais non islamistes, 125 de gauche, 44 trucs séparatistes, 11 qu'on n'est pas capable de classifier, et le deuxième plus gros groupe, suprématie blanche. Donc, tu es là, OK, ça c'est quand même le deuxième à 169.
Mais ça, c'est des gens de droite.
Ben, dans le discours, oui, mais quand tu regardes, le gars, c'est clairement le gars qui a commis l'acte à Buffalo est clairement un suprémaciste blanc, il y a zéro doute. Mais tu lis son truc, il y a des trucs assez à droite dedans comme conservative, mais en même temps, tu as des trucs aussi dedans super libéraux de gauche, là, liberals.
C'est exactement mon point.
Puis il tire partout sur la carte. Ce que j'aimerais voir, c'est où est-ce qu'ils sont dans le graphe? Puis à quel point, si tu prenais genre l'écart type de toutes les réponses aux questions qu'ils ont, parce que tu peuples un Nolan Graph en posant une multitude de questions sur des politiques publiques, des politiques économiques, des tests de valeur, est-ce que tu penses que l'avortement devrait être légal, illégal? Puis là, tu peux plus ou moins classifier. Puis si tu prends l'écart type sur un graphe comme ça, ça serait l'équivalent de tracer un cercle, un rayon autour du point auquel il est en moyenne. Puis là, tu es capable de voir, tu sais, S'il est très cohérent, le rayon va être très petit autour du point. Puis ce que je te garantis, c'est qu'il y a deux choses qui vont se passer. Il va y avoir des gros rayons, ils vont étendre sur la totalité de ce truc-là, avec peut-être un tilt dans la section autoritaire. Donc, ils vont être vers le bas du graphique.
Oui, oui.
Tu as la vision autoritaire du monde. Mais tu vas avoir un cercle vraiment weird, très large, où est-ce qu'ils vont comme avoir des idées libertarienne, mettons, genre comme je pense que les gens devraient légaliser la drogue dure. OK, ça te met en lien avec des libertariens, mais le reste de... Puis c'est pour ça que...
À la minute que tu veux imposer tes idées aux autres, t'es dans le secteur autoritaire du graphique. Yep. Tout le monde comprend ça.
Imagine si tu prends des armes pour le faire, clairement, tu peux pas être un libertarien, là, je veux dire.
Non, en
tout cas, si tu l'es... C'est pour ça, mon point, c'était la question de la cohérence idéologique, d'après moi, est nulle dans la très vaste majorité des cas. Puis l'autre affaire, je vais prendre un exemple, là, puis on va closer là-dessus. Là. Mais mettons que je prends un exemple le plus probant pour que les gens comprennent, là, puis ça sera pas polémique. Là. Même si tu faisais ce graphique-là, et que, mettons, tous les points sont dans le même coin. Imaginons que tous les attentats qui ont été faits dans les 10 dernières années, faisons cette expérience de pensée-là, tous les attentats, tous les actes répréhensibles ont été faits, mettons, par des groupes de gauche écologistes tenant le même discours. Même si c'était le cas, ça n'invalide pas pour autant la préoccupation de la préservation de l'environnement. Donc, mon point, c'est pas parce qu'il y a des gens qui, au nom d'un discours, font des actes qui n'ont pas de Christie de bon sens, que ce discours-là est immoral. Et c'est pas non plus parce qu'aucune personne font des actes débiles au nom d'une idéologie que ça en fait quelque chose de plus respectable.
Ben écoute, moi, je vais plus loin que toi. C'est parce que, moralement, je pense pas que c'est correct d'attribuer à d'autres personnes
qui
partagent certaines similarités idéologiques à un autre la culpabilité d'une personne, de l'assaillant ou de la mauvaise personne. Je pense pas qu'une personne de gauche devrait être responsable devrait être jugé coupable non. de ce qu'une autre personne à gauche a fait comme acte terroriste.
Même mais chose c'est ce à que droite. Tout le monde fait.
Mais moi, je vois plus loin que toi. Ce que je te dis, c'est qu'il n'y a même pas de relation entre idéologie et l'acte de commettre. C'est même pas parce que ça serait possible peut-être qu'il y a un lien. C'est-à-dire que si, mettons, je suis Tucker Carlson puis que je parle, je pourrais peut-être encourager des gens à le faire indirectement. Mais ce que je dis, c'est que le lien est tellement faible dans les données que c'est même pas une question morale ici, c'est que c'est une question empirique de science positive, que c'est vraiment faible de dire que tu peux même le faire. Parce que si c'était vraiment vrai, là, on pourrait peut-être accepter que l'idée où on devrait uniquement débattre de la moralité de la culpabilité d'une personne, de juger coupable une personne des actions de quelqu'un qui est similaire, parce que tu l'as encouragé en étant membre du groupe, un effet de pair, etc. Tu pourrais avoir la discussion morale. Mais moi, ce que je te dis, c'est que tu ne peux même pas te rendre à cette étape-là. Tu ne peux même pas te rendre à l'édition d'étape morale parce qu'il n'y en a pas de lien clair. En fait, quand tu en trouves, ils sont faibles, ils ne résistent pas à des tests de robustesse. Ils sont vraiment pas bons.
Parce que la réalité, c'est que quand il arrive un événement comme ça, ce qu'on aimerait voir dans les médias, c'est un psychiatre qui nous explique comment la personne est venue dans son cheminement à arriver là. Mais ce n'est pas ça qu'on a. Qu'on a, au lieu d'avoir des experts en psychiatrie, c'est des analystes politiques qui ont des agendas. C'est ça qu'on a.
Oui, puis qui vont venir... Ben, parce que là, on cale le gars de droite qui haït les groupes écolos pour dire, ben regarde, lui, il a fait sauter un pipeline, donc il a dû être radicalisé par le Parti vert. Ou, à l'inverse, lui, il est rentré, je sais pas moi, dans une église, il a fait sauter une bombe, donc il doit être radicalisé par un groupe de haineux contre cette religion-là. Bon. OK, fine, mais on avance à quoi? Ce qui nous amène à l'histoire des solutions. Parce que c'est ça, c'est tout ça le débat du alentour du contrôle des armes à feu. C'est est-ce que c'est une solution viable? Parce que moi, honnêtement, moi, j'ai tendance à penser que ça n'a pas bien d'effet. Là. Mais ça, c'est mon présupposé. C'est pas basé sur des études, c'est pas basé sur grand-chose. Là. Mais si tu me disais, mettons, que ça a vraiment un impact là, majeur. T'sais, j'essaie de ne pas être dogmatique trop dans la vie. Là. Si tu me disais que c'est vraiment efficace, voici pourquoi, à cause de telle étude, moi, je suis prêt à piler sur certains idéaux, certains principes, si tu me démontres vraiment l'efficacité d'une mesure. Si ce n'est pas démontré, je demande à être convaincu.
Écoute, c'est là, encore une fois, que les gens dans les médias, il y a comme trois problèmes avec la littérature. Puis ça montre qu'il y a vraiment, dans les médias, il y a vraiment une absence de... En fait, il y a une surprésence de gens qui ont d'opinions fortes avec peu de fondations, tant d'un bord que de l'autre. Parce que si je disais, il y a beaucoup de gens qui sont invités à parler sur un sujet, puis on les prend parce qu'ils sont le quota de droite ou le quota de gauche. Fait que si on invite la folle de gauche au show de Tucker Carlson, on invite le fou de droite au show de Rachel Maddow, puis on fait quelque chose comme ça. Puis c'est comme un classique des médias de présenter des cas extrêmes parce que ça attire des vues. Mais quand tu regardes la littérature sur les armes à feu, t'as comme... Mettons, tu pars des deux positions. T'as le libre port d'armes, est-ce que ça réduit les crimes? Et est-ce que le gun control réduit les crimes? Bien, les deux côtés, on a de la littérature qui a commencé dans les années 90 avec un gars qui s'appelle John Lott. Lui, il trouvait genre que conceal and carry, c'est-à-dire que tu avais un droit de porter une arme à feu, mais de cacher l'arme à feu, avait un effet de réduire le crime en général. Il y avait un effet déterrant parce qu'à chaque fois que tu rencontrais quelqu'un, il y avait la possibilité qu'il soit armé, donc tu commettais moins de crimes. Tu avais aussi le open carry, c'est-à-dire que là, tu réduisais le crime, mais seulement pour les gens autour de toi immédiatement. John Lott avait publié ses affaires, puis ça avait été hyper controversé. Puis aussi, c'était clair que John Lott avait un peu fucké, avait créé des données à partir de rien. C'était du fake, là. C'était vraiment...
Ouais. Là, ça pose problème.
Oui, c'était malhonnête. Des gens qui ont essayé de répliquer ses affaires, quand tu trouves un effet de réduction de crime du libre port d'armes, s'il est positif, il est très petit. S'il est négatif, il est très petit. Généralement, la moyenne est à zéro. C'est une moyenne super centrée autour de zéro. Tu n'as pas de cas extrême. Là. On est sûr de la distribution autour de zéro. Peut-être un petit positif, peut-être un petit négatif, on n'est pas sûr. Maintenant, tu regardes la littérature sur le contrôle des armes à feu. Là, tu as plus de variance parce que tu as des taxes sur les munitions. des restrictions sur certains types d'armes à feu, etc. Fait que tu as une pile de différentes restrictions. Puis tu en as qui ont l'air d'avoir des effets importants, comme par exemple des restrictions sur, disons, des armes de gros calibre. Donc, des mitrailleuses automatiques, des choses comme ça, ils ont l'air d'avoir ont pas l'air d'avoir d'effet dans ces cas-ci. Généralement, ça fait du sens. La plupart des gens qui vont acheter une mitrailleuse automatique vont être des collectionneurs. Donc, c'est pas le groupe qui veut commettre des crimes.
Ouais, ou ils vont dans des stands de tir ou ce genre de trucs-là.
Par contre, disons, forcer les gens à acheter des pistolets en pièces détachées, tu leur ajoutes des coûts additionnels. Donc là, tu as un effet de réduction. Les armes de poing ont peut-être l'air d'avoir un effet de plus. Mais quand tu regardes, peu importe c'est quoi, tu arrives à peu près la même conclusion qu'avec le libre port d'armes. L'effet est pas mal centré autour de zéro. Ils sont vraiment petits. Là. Il y en a... un des articles les plus connus, c'était par un gars qui s'appelle John Donahue, qui répondait à... comment il s'appelle? John Lott, que je mentionnais plus tôt. Puis lui, ce qu'il trouvait, c'était l'effet a l'air d'être là, mais il est assez petit quand tu trouvais les chiffres. Ça n'expliquait pas une grosse proportion du déclin de la violence contre du taux d'homicide. Donc, la popularité n'était pas très élevée. Un autre article super connu qui est dans Journal of Political Economy, qui est comme le top journal.
John Donahue, est-ce que c'est le gars de Stanford?
Je suis 100% sûr qu'il était à Stanford.
OK, parce que je viens de tomber sur un podcast là, qui parle de ça, justement.
Il est super
John Donahue on Stanford Legal Podcast.
Ça me surprendrait pas.
About his new research looking at concealed carry gun law and the assault weapon ban.
Fait que là, l'autre que j'ai en tête, celui que je t'ai envoyé, c'est Mark Duggan. Puis lui, il a utilisé vraiment une méthode super hot. C'était utiliser le nombre de... il a utilisé le nombre de souscriptions à des magazines d'armes à feu comme étant un proxy de la perception de la criminalité dans une communauté. Parce que là, ce que tu veux savoir, c'est... Ça amène à la grosse question qu'on n'est jamais sûr. C'est que... Est-ce que les crimes causent les guns ou est-ce que les guns causent les crimes? C'est vraiment... Ouais. C'est pas facile à savoir ça. Puis lui, il s'est dit, ben trouvons une mesure qui nous donne une idée de la perception de la criminalité dans des régions. Comme ça, on peut plus ou moins estimer qu'est-ce qu'il y en est. Puis lui, il trouve que le taux de propriété d'armes à feu est vraiment significativement lié à... au nombre de crimes dans une communauté. Ce qui fait du sens, mais que tu peux attribuer ça directement à l'effet du gun vers les crimes. Mais en fait, ce qui est précis, c'est que les gens... Puis là, si tu regardes la dernière phrase dans le truc là, que je t'ai envoyé, puis prends le abstract, là, prends la dernière phrase du abstract, « recent contribution », les gens, l'effet qu'il dit, c'est un tiers du différentiel entre les déclins d'homicides avec des armes à feu et des homicides de non-armes à feu. Fait que tu prends la différence entre les deux, puis tu regardes la taille de cette différence-là. Donc, on parle d'un très petit nombre, puis c'est un tiers d'un très petit nombre. Puis après ça, il faut que tu qualifies ça d'une autre affaire. Quelle proportion de la propriété d'armes à feu est liée, de changement dans le nombre d'armes à feu est liée au gun control? Fait qu'une petite, un tiers d'une petite différence que tu dois pondérer par l'élasticité de la demande d'armes à feu face aux réglementations, tu arrives à un effet qui est proche de... qui est très petit, qui peut être positif, hein, qui réduit le crime, mais qui peut être super petit. Ce qui est super clair, puis ça, c'est vraiment la chose que personne ne comprend, ce qui détermine bien plus la criminalité, en général avec les armes à feu, c'est... Le nombre de prohibitions dans le reste de la communauté. Parce que ce qui se passe, c'est que plus tu augmentes la taille du marché noir, plus tu augmentes la demande pour ce que l'article que je viens d'envoyer, il y a un terme dedans que j'adore, que j'utilise avec mes étudiants souvent quand je fais du law and economics, qui dit extrajudicial adjudication mechanisms. Ce qui veut dire que tu ne m'as pas payé, je vais te shotter. So I pop a cap up your ass. C'est ça que ça veut dire. Donc je leur dis, extrajudicial adjudication. Mec. Je trouve ça drôle chaque fois que je leur dis. Parce que ça en est presque un je sais pas comment dire ça, mais une hyperbole cachée dans un euphémisme. C'est vraiment beau. Là. Moi, j'adore ça, ces affaires-là. Mais ce qu'ils trouvent, c'est quand tu expliques la variation de la violence aux États-Unis, non seulement tu peux expliquer la prépondérance d'armes à feu en fonction, oui, de la criminalité dans une communauté en partie, mais aussi en fonction de la taille des activités criminelles, du marché illicite dans une communauté. Et là, tu vas avoir plus d'armes à feu et là, tu vas avoir plus de violence. Donc, toutes les explications que je viens de dire, tu ajoutes un autre layer là-dedans qui montre que ben, l'effet est super petit, puis il y a d'autres politiques qui réduiraient la demande d'armes à feu, la disponibilité d'armes à feu, tout simplement parce que les gens n'en demanderaient pas pour régler des extrajudicial adjudications.
Ouais, 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 je comprends. Mais dans le fond, c'est un peu le même argument que, mettons, si on prenait la légalisation du cannabis ou versus son interdiction, ben, l'argument des gens qui étaient pour la légalisation, c'était de dire, ben, écoutez, ça fait des décennies que le gouvernement essaie de faire la lutte à la drogue, à la vente de cannabis, ce genre de trucs-là. C'est des ressources policières qui sont allouées là-dedans. On n'est pas capable de l'enrayer, fait qu'aussi bien que ce soit légal et encadré. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu le même argument. Si, mettons, la vente d'armes, ça devient excessivement encadré, réglementé, difficile de se procurer, bien là, tu dois arriver un moment donné à une espèce de point où là, ça fait augmenter le dark web, là, le marché noir, là, dans le fond, là, de ce genre d'armes-là. Les gens vont se les procurer de manière illégale. Mais, tu sais, moi, je me souviens d'avoir déjà eu cette conversation-là avec quelqu'un qui me disait « Ouais, mais plus tu rends ça complexe, plus ça va dissuader les gens, mettons, de s'en procurer. » Là, je me disais « Ouais, mais ça n'a pas l'air de fonctionner avec d'autres trucs. » Tu sais, mettons, la coke, c'est compliqué de se procurer de la cocaïne là, si tu ne sais pas comment faire, puis ça n'a pas jamais empêché quelqu'un de se poudrer le nez.
Mais écoute, je suis convaincu que la prohibition de l'alcool ou la prohibition des drogues dures réduit la consommation de drogues dures. Il y a zéro chance que ça ne réduise pas. Tu augmentes le coût pour les consommateurs. Il y a zéro chance que ça augmente la consommation. Par contre, la question, c'est à quel coût? Je veux dire...
Ah oui, mais c'est ça. Ben oui.
Je veux dire, les gens disent ça, mais demain matin, ce que je pourrais dire, ben, si on interdit l'avortement, il va encore avoir des avortements, je te garantis. La question,
comme par il y en contre, avait
c'est,
avant,
c'est quoi le coût d'interdit? Mettons que tu dis, là, c'est... Ben, il faut le faire parce que tu penses que c'est moral comme position, puis tu dis, ben, il faut le faire, puis c'est important. Puis là, la réponse de quelqu'un, c'est, tu vois, regarde, ça n'a pas baissé. Ben, c'est pas vraiment un bon argument. Là. C'est en fait, ça a baissé juste un petit peu. C'est la preuve que ça ne fonctionne pas. Non, c'est la preuve que la demande pour ça est élastique. Ce que ça veut dire, c'est que si tu augmentes le prix beaucoup, tu vas avoir une grosse réduction, mais il faut que tu l'augmentes vraiment beaucoup pour avoir cette grosse réduction-là. Tandis que si c'était vraiment élastique, tu peux augmenter le prix de 1% puis les gens vont arrêter de le faire. OK, mais on a des bonnes raisons de croire que des gens qui veulent tuer quelqu'un d'autre, leur comportement est probablement très élastique, très inélastique. Même chose avec les gens qui veulent faire des drogues dures. Puis pour revenir au marché des armes à feu, ben il y a des bonnes raisons de croire que la demande d'armes à feu est très inélastique. Donc, il faut vraiment que tu aies des mesures super extrêmes pour que tu en viennes à réduire l'incidence. Puis c'est encore pire, by the way, la littérature, quand tu checkes le lien entre pas juste les crimes par arme à feu, mais les mass shootings, c'est encore plus faible la relation parce que c'est des événements tellement extrêmes, puis les gens qui veulent les commettre sont tellement extrêmes eux-mêmes que c'est probablement les gens qui sont les plus inélastiques dans leur désir de commettre le crime. Donc, les contrôles d'armes à feu, dans leur cas à eux, on décèle rarement des effets. Les études qui trouvent que ça a un effet, d'autres qui trouvent qu'il n'y en a pas. Mais généralement, c'est encore une fois, ce qui est important, c'est que toutes les études vont avoir des variances entre elles par choix de données, par plein d'affaires.
Mais
la question, c'est à quel point c'est centré autour d'une certaine valeur. Ben, s'ils sont toutes positives, mais qu'il y a un gros range de positifs, ben, au moins, tu sais que ça a un effet positif. Mais ici, c'est que c'est soit zéro, soit un très petit positif, dans le sens que ça le réduit, le positif, dans le sens que tu veux ça. Mais l'effet est minime. Fait que là, tu sais, J'entends les gens dans les médias se prononcer là, sur le contrôle des armes à feu, puis je suis aux États-Unis, fait que la discussion est encore plus intense. Puis je suis comme, il n'y a aucune connexion tant chez les conservatives que chez les liberals avec ce que la littérature dit, avec il y a comme un disconnect général dans la conversation.
Moi, ce qui me dérange là-dedans, puis juste mentionner aux gens, là, Yann est disparu, mais c'est parce qu'il était sollicité sur un autre média.
Ah, on est content, ça va bien.
Pendant le podcast, c'est pour ça que le sujet n'a pas dérapé depuis 15 minutes, mais il devrait revenir, là, en tout cas pour la partie Patreon. Mais moi, ce qui me dérange avec ça, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'on dirait que les gens qui parlent de ces sujets-là, excepté ce qu'on fait aujourd'hui, ont plus tendance à vouloir faire de la politique qu'à vouloir régler un problème ou en tout cas essayer d'amoindrir un problème. Puis, tu sais, je vais prendre un exemple un peu grossier, là, mais si vous allez comprendre ce que je veux dire. Imaginons qu'on sache qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'enlèvent la vie par pendaison. Et puis là, tu arrives avec comme solution, on va mettre quelqu'un dans les quincailleries qui va questionner les gens à savoir qu'est-ce qu'ils font avec des cordes quand ils les achètent. Puis comme ça, tu sais, j'ai l'impression, c'est un exemple grossier, mais c'est pour dire que j'ai l'impression qu'on a toujours tendance à aller vers cette affaire-là du contrôle ou de l'autre bord, de l'hostilité totale au contrôle pour des raisons idéologiques. Mais on n'a jamais de réflexion sur, bon, attendez, là, quelles sont les causes de ces actes-là, qu'est-ce qu'on peut faire en amont, comment on peut faire... Tu sais, j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, il y a vraiment trop de féminicides, là, le contrôle des armes à feu, il y a des maris violents qui mettent fin au jour de leur conjointe avec des armes. Puis moi, je me dis, mais c'est parce que si la personne n'a pas d'armes, là, pensez-vous qu'elle devient bonne du jour au lendemain? Pensez-vous qu'elle ne peut pas lui enlever la vie avec d'une autre manière, par arme blanche, par ses poings? Pensez-vous que quelqu'un qui a envie de commettre un acte terroriste, s'il n'a pas de fusil, il ne le fera pas? Il peut aussi bien prendre un cocktail Molotov, une bombe artisanale. Je ne comprends pas. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ont une incapacité, ils ont tellement peu d'imagination que dans leur tête, ils se disent, ben, si quelqu'un avait envie d'aller faire une tuerie quelque part, s'il n'y avait pas d'armes, il n'aurait rien pu faire de mal.
Écoute, check bien. Pour fitter exactement ce que tu dis, là, je vais t'envoyer un graphique que tu peux mettre à l'écran pour les gens. Là, commence avec le dernier lien que je t'ai envoyé, puis après ça, on va monter un à un les quatre derniers que je t'ai envoyés.
Okay, le graphique. Là, ça m'a comme téléchargé en PNG.
OK. Le graphique, là, quand il va apparaître, ce que ça montre, c'est les taux d'homicide depuis mesurés par un gars qui s'appelle Manuel Eisner, qui, si je ne me trompe pas, est à l'Université de la Pennsylvanie, depuis genre 1200, donc historiquement. Puis ce que tu vois, c'est que historiquement, là, on était à des taux d'homicide quelque part entre, aux alentours de 10 homicides par 100 000 personnes. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment gigantesque comme proportion. Puis aujourd'hui, là, dans toutes les sociétés occidentales, tu es pas mal autour d'un homicide par 100 000 personnes. Ce qui est vraiment pas très gros. Mais le lien, là, c'est quand tu essaies de voir cette tendance-là.
Je vois pourquoi il est sur le côté. Je suis pas capable de le tourner. Mais regarde,
les gens
sont capables de se l'imaginer.
Je sais pas pourquoi il fait ça de même, mais tu vois, là, il baisse vraiment gros à travers le temps.
Ouais.
Puis, quand tu essaies d'expliquer c'est quoi ce déclin-là des homicides, du taux de meurtre à toute fin pratique, l'augmentation du revenu, c'est le facteur qui domine, tout simplement parce que quand tu commets un crime, le coût d'opportunité d'une année en prison augmente avec ton revenu. Si tu es dans une société très pauvre, le coût d'un crime, tu as un bénéfice immédiat, mais tu ne perds pas un revenu gigantesque. Alors que si tu es dans une société A qui est plus riche, mais qui a aussi une croissance économique rapide, tu te prives de toute la croissance que tu peux avoir dans une longue période dans laquelle tu es incarcéré, plus le revenu qui vient avec ça. Donc, les gens commettent moins de crimes en raison d'une augmentation de revenus. Fait que ce que tu veux savoir, si tu veux vraiment, là, puis c'est toujours ça la chose que je dis, c'est que généralement, si tu veux régler des problèmes que les gens ont, les solutions directes rarement fonctionnent comme tu t'y attends.
Ouais, c'est ça.
Tu vas dépenser un paquet de ressources sur quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'effet, là, mais ça veut dire que tu vas dépenser une tonne de ressources alors que des solutions indirectes qui n'ont pas pour but de gérer ça vont accidentellement régler ça. Puis les trois articles en haut que je t'ai envoyés, c'est comme trois articles que je connais sur la liberté économique et soit le bonheur ou le taux de crime. Puis ce qu'on trouve, c'est, ben, premièrement, que quand on regarde des augmentations de liberté économique qui ont pour effet, parce que le lien entre liberté économique et croissance économique est super fort, ben, des réformes qui libéralisent ont tendance à augmenter les revenus et, par conséquent, réduisent la criminalité.
Parce que c'est lié à la pauvreté.
Exactement. L'autre étude, c'est sur les happiness studies. Donc là, les gens qui disent, ben, sur une échelle de 0 à 10, à quel point tu es satisfait de la qualité de ta vie. Donc, ce n'est pas juste le revenu, là. C'est-à-dire que tu demandes d'évaluer à quel point tu apprécies ça. Puis ce qu'on trouve, c'est que ben, la liberté économique augmente le niveau de bonheur chez les gens. Les gens sont plus heureux dans des sociétés économiquement plus libres. Mais aussi, ce qu'on sait, c'est que là, tu peux faire un deuxième lien, un effet de second ordre. C'est qu'on sait que les gens qui reportent des niveaux plus élevés de satisfaction de vie sont moins susceptibles de commettre des crimes ou des actes d'agression. Donc, des politiques qui encouragent la croissance économique en général vont avoir pour effet de réduire le problème avec lequel tu te retrouves, au lieu d'avoir des politiques super ciblées qui, dans l'immédiat, pourraient avoir un effet négatif, pourraient avoir un effet positif, peut-être en moyenne zéro, mais pour lequel tu vas dépenser un paquet de ressources, tu vas créer une bureaucratie additionnelle qui va faire du legal enforcement agressif. Donc, tu sais, aux États-Unis, ça l'effet, les gens oublient ça, mais tu sais, au Canada, ça ne s'applique pas tant que ça, mais aux États-Unis, l'effet que ça a d'avoir créé des lois pour gérer la drogue ou pour combattre certaines criminalités, ce que ça a fait, c'est la militarisation de la police. Tu as des policiers, écoute, tu as des postes de police qui ont des véhicules blindés. Je veux dire, ça devrait te donner une idée peut-être que ce que tu as fait, c'est que tu as créé une bureaucratie policière qui est peut-être un petit peu trop intense parce que tu as le coût de ces mesures-là qui n'ont pas une tonne d'effet. C'est que ça a été que ben, il faut qu'on déploie des mesures extrêmes. Puis quand il y a des accidents, donc disons, les policiers maintenant sont investis beaucoup dans la gestion de la violence, mais ils ne sont pas capables de gérer des cas où est-ce que la personne n'est pas violente. Donc, par exemple, la pire chose que tu peux faire aux États-Unis, c'est être une personne avec des problèmes de santé mentale et que les policiers sont en ta présence puis qu'ils ne sont pas capables de comprendre que, par exemple, t'es juste comme... T'as un problème particulier qui n'est pas du tout une agressivité générale, tu es juste dans un cas particulier.
Oui, quelqu'un qui est en psychose, toxique ou ce genre de truc-là.
Exactement. Ils ne sont pas attirés à ça parce qu'ils ont dépensé une tonne de ressources dans gérer des trucs extrêmement violents et ils ne sont pas spécialisés dans d'autres activités. Donc, il y a un coût social, c'est juste qu'on ne le voit pas facilement. Mais ces mesures-là, tu ne devrais peut-être pas les adopter, tu ne devrais peut-être pas mettre ton poids là-dessus, tu devrais mettre ton poids sur d'autres trucs. Donc, réduire la sphère dans laquelle tu as besoin de faire usage de la violence. Donc, libéraliser les drogues, laisser plus de place aux gens pour ne pas avoir à utiliser des armes pour créer pour régler des différends dans des trucs où est-ce que l'État ne peut pas intervenir pour régler des différends.
La croissance économique en général. Ben, tout ce que les libertariens appellent les crimes sans victime, là. C'est aller pourchasser des. Tu sais, je veux dire, j'en parlais encore avec ma blonde il n'y a pas longtemps. Tu sais, à un moment donné, d'envoyer des policiers. Tu sais, si c'est fait, on comprend. Là, si c'est fait contre le gré des personnes, si c'est fait avec de la maltraitance, quoi, ça, c'est pas moi qui va défendre ça, c'est sûr. Là. Mais tu sais, moi, qu'une personne décide sur Internet d'avoir un site web et de vendre des services à caractère sexuel, c'est pas à moi de décider si ça doit être légal ou pas. Là. Moi, personnellement, je vois pas pourquoi on commence à pourchasser ces gens-là ou à emmener la police là-dedans. Je veux dire, j'ai plutôt l'impression que le fait que ce soit illégal, ça fait en sorte que le crime organisé est empêtré là-dedans. Puis, je sais pas. C'est sûr que c'est tous des sujets un peu touchy. T'as tout le temps de l'air un peu d'un monstre quand tu parles de ça parce que c'est très émotif. Il y a des gens qui ont vécu des expériences. Puis,
ça n'enlève rien à leurs expériences, by the way.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que si tu as cette discussion-là avec quelqu'un que sa sœur a déjà été sous l'emprise d'un proxénète ou quoi que ce soit, elle va être sûrement totalement fermée à l'idée. Mais tu sais, c'est pas ça le point. Là. Évidemment que c'est pas ça le point. Mais tu sais, que deux personnes consentent. Moi, mon point, c'est que tu as deux personnes consentantes. Tu as quelqu'un qui est prêt à donner de l'argent en échange de la compagnie. Et plus, je vois pas c'est quoi le problème.
Non, moi non plus, mais en même temps, tu sais, je comprends la détresse des gens. Puis, tu sais, la chose qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est que souvent, les événements extrêmes, tu sais, créent une sorte de demande d'intervention. Puis, c'est tout à fait raisonnable comme réponse. Par contre, ça vaut toujours la peine de peut-être éviter de raisonner sur la base d'événements extrêmes. Je comprends que de manière évolutionnaire, ça faisait du sens que ce qui était... Ben, on a vu notre ami se faire écraser par un mammouth. Ben, il ne faudrait pas courir devant le mammouth. Ben, OK, c'est un événement extrême. Mais tu sais, de manière évolutionnaire, on a développé ce mécanisme-là, mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui, avec la richesse qu'on a, que ce mécanisme évolutionnaire d'observer les cas extrêmes a la même valeur sociale que ça avait, disons, dans le passé, où est-ce qu'on était beaucoup plus à la marge entre survie et mort qu'aujourd'hui, où est-ce que c'est beaucoup moins le cas. Aujourd'hui, on a comme le luxe de pouvoir prendre le temps de s'arrêter puis de penser à un sujet au lieu de partir la partie reptilienne de notre cerveau puis de la laisser runner comme ça pour faire ça. On est tellement rendu riche qu'au moins, on a ce luxe-là maintenant d'un peu, pas conquérir notre nature évolutionnaire, mais de calmer notre réflexe.
On a plusieurs exemples de ce que tu dis là, tu sais, quand même dans l'actualité, pas récente, là, mais pas si lointaine que ça. Tu sais, tu as une jeune fille qui n'a pas l'âge d'acheter de l'alcool. Elle rentre dans un dépanneur et vole une canette d'alcool marquée Fort Loco dessus. Et ça aboutit en une histoire médiatique complètement grimpée. Puis on finit à faire une loi. Après ça, quelle autre affaire aussi qu'on a eue dans ce genre-là? Il y a eu quelqu'un qui s'est fait écraser à un moment donné en face d'un hôpital à Québec. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là. Le gars, dans le fond, je pense qu'il avait la schizophrénie ou quelque chose. Non, pas la schizophrénie, il faisait des crises d'épilepsie. Et on aurait dû retirer son permis. Mais bref, ça n'a pas été fait par une histoire de je me souviens plus trop quoi, la négligence du médecin ou peu importe. Il a écrasé une femme qui traversait entre l'hôpital et le centre d'achat et parce qu'il était en crise au volant. Et puis là, ça a fait tout un débat. Est-ce qu'on devrait faire une passerelle par-dessus, entre les deux, pour pas que les gens traversent parce que c'est dangereux? Puis là, tu dis, OK, mais t'as un peu, là, il est arrivé un événement. Et là, on fait toute une histoire avec ça. Tu sais, réagir sur le coup de l'émotion. Tout le monde comprend. Là. Puis si jamais il y a des gens qui nous écoutent, que ses parents avec eux, la personne qui s'est fait écraser, c'est un drame épouvantable. Tout le monde comprend ça. Mais est-ce que ça justifie de partir un débat pour dire, bon, on va prendre 200 millions, on va construire une passerelle piétonnière entre ces endroits-là sous le prétexte que ça, c'est arrivé?
Je sais pas si c'est 200 millions, j'espère, c'est pas ça.
Ben, c'est un chiffre qui n'avait pas de bon sens. Là. Je me souviens, c'est... OK, tu te dis, OK, fine, mais pourquoi? Puis tu as toujours l'impression, en plus, que ça arrive, ces affaires-là, comme une espèce de réponse souvent du politique à souvent quelque chose qui est très brûlant dans l'actualité, mais qu'on sait très bien que ça va s'estomper. Tu sais, un coup que la nouvelle sera plus d'actualité. Tu sais, fait que ça a l'air un peu insensible, ce que je dis là. Mais c'est non, un peu un appel. Je pense que c'est un appel un peu à la raison. Là, à
je pense pas donné, que ce l'est parce que souvent, là, ce que je dis, c'est. J'ai fait l'exercice plusieurs fois avec mes étudiants quand c'est des questions touchées comme ça. Je leur dis, écoute, ta job comme économiste, c'est pas de faire des jugements moraux. Il y a des endroits en économie dans lesquels tu peux faire ça, mais il faut que tu aies fait un paquet de constatations empiriques, factuelles, avant de te rendre là, puis théorique. Puis tu as vraiment plusieurs étapes à franchir. Mais je dis, mettons, là, on dit, OK, le coût de... Mettons que cette femme-là, c'était une future prix Nobel, tout. Puis que la valeur qu'elle avait pour la société était gigantesque. Puis tu me dis, ça vaut la peine de redépenser cette somme-là pour éviter que ça arrive à une autre personne exceptionnelle comme elle. OK, fine. Maintenant, c'est quoi le nombre d'enfants, par exemple, que tu aurais pu sauver en dépensant ce montant-là des soins médicaux dans des pays en développement ou sur la mitigation du réchauffement climatique? Il faut quand même que tu me dises à quel point tu es en train... Parce que là, ce que tu vois, c'est que tu vois la vie que tu peux sauver, mais tu n'es pas en train de me dire le nombre de vies que tu peux peut-être en train de sacrifier. T'sais, Frédéric Bastiat disait, un bon économiste, c'est celui qui voit ce qu'on... the seen and the unseen. Je ne sais pas comment le dire en français.
Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas.
Ouais, ben, je ne suis pas sûr s'il disait exactement comme ça, mais l'idée, c'est qu'il y a des choses que tu vois, puis c'est évident. Mais il y a des choses qui ne sont pas évidentes, qui nécessitent des contrefactuels dans ta tête. C'est-à-dire que ben, si ce montant-là, maintenant, qui est dépensé sur ça, il n'est pas disponible pour dépenser sur des hôpitaux. Il n'est pas disponible pour dépenser sur des écoles. Il n'est pas disponible à dépenser sur des garde-fous sur les autoroutes. Il y a plein de choses comme ça. Puis là, il faut que tu me dises pourquoi tu penses que ça, c'est mieux que
ben,
l'autre.
Mettons un milliard pour faire un régime, un système de contrôle des armes à feu, si ça sauve même pas une vie en bout du compte. M'amener ton coût, ton calcul coût-bénéfice n'est pas très efficace.
Là. Écoute, j'avais fait l'exercice avec le registre des armes à feu pour combien ça avait coûté par vie sauvée. Puis j'avais dit, OK, allons-y avec le meilleur scénario possible, etc., etc., qui est donné par les gens sur les faits. Puis on va enlever non seulement ça, le coût initial qui avait été fait. Ouais. Donc, on va juste prendre le coût marginal de continuer le registre une année de plus. Le coût par année n'était pas super élevé. Le coût initial de 2 milliards était débile. Fait que, dès que tu inclus le coût fixe de la chose pour le partir, c'est incroyable comment ça a coûté cher par vie sauvée. Mais mettons que tu prends le montant pour continuer la chose. Puis d'ailleurs, les gens qui disaient ça, ceux qui étaient contre le registre de la feu, ils avaient tort de souligner ça parce qu'ils tombaient piège de la fallacie des coûts perdus, c'est-à-dire de sunk cost fallacy. C'est-à-dire que là, il disait, ben là, parce qu'on l'a fait dans le passé, puis que ça a coûté cher dans le passé, on devrait l'arrêter. La question, c'est combien ça coûte de continuer de l'utiliser. Si ça coûte 20$ par année, puis que ça sauve une vie, 20$ pour une vie, je connais pas grand.
Cet argument-là,
je veux dire,
on va continuer parce qu'on l'a déjà fait. Tu sais, je comprends pas ce que
ben, continuer parce qu'on l'a déjà fait ou l'arrêter parce qu'il a coûté cher dans le passé. La question, c'est quoi le coût de continuer en soi? Mais le coût de continuer en soi lui-même était très élevé. Ça arrivait, je pense, à une dizaine de millions par année. Étant donné le nombre de vies sauvées, tu arrivais à 250 000 par vie sauvée en termes de dépenses. Fait que là, OK, tu dis, ben la valeur statistique d'une vie, fait que, tu sais, tu peux prendre ce que notre actuaire est de retour, tu peux prendre c'est quoi la valeur statistique d'une vie, puis dire, OK, d'accord, ça vaut quelque chose. La valeur statistique d'une vie est effectivement beaucoup plus que 250 000. Donc, ça vaut la peine peut-être de dépenser là-dessus. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est juste la première étape. Faut au moins que ça ne peut pas être inférieur à la valeur statistique d'une vie.
La vie, ça n'a pas de prix, Vincent.
Ben,
Si tu ne crois pas ça,
prends pas d'assurance.
Ouais. Mais tu sais, les arguments de même qu'on entendait, là, le discours que toi, moi, je l'ai entendu quand même une couple de fois, là, puis tu avais des gens dans les médias qui disaient des trucs du genre, oui, mais si on peut sauver qu'une seule vie.
Oui, mais c'est là qu'il faut que tu répondes. C'est, mais qu'est-ce qui arrive si tu aurais pu sauver 10 vies avec le même montant sur un autre truc? Ce montant-là, il n'est plus disponible. Là. C'est toi le sans-cœur ici. Parce que la deuxième étape après la valeur statistique de savoir si au moins ça vaut une valeur statistique d'une vie, c'est quoi toutes les autres choses que j'aurais pu faire avec ce montant-là pour moins cher? C'est ça la deuxième chose qu'il faut que tu me poses. C'est combien de vies statistiques j'aurais pu sauver. Si tu me dis que j'aurais pu dépenser ce 200 000 250 000 $-là, puis pour 25 cents la vie, j'aurais pu sauver des enfants avec de l'eau potable de bonne qualité en Afrique, c'est toi le sans-cœur si tu as décidé de dépenser là-dessus. Je m'excuse, là, mais c'est toi le sans-cœur, pas moi.
C'est carrément ça, là. Hey, on arrive à la fin de la partie gratuite. Pour la suite, on va prendre des questions du Q&A qu'on n'a pas eu le temps répondre la semaine passée pour les gens sur Patreon qui peuvent poser leurs questions. Fait que si vous voulez le faire, ben, rejoignez-nous sur Patreon. Il va y avoir une pause d'une semaine là, à un moment donné, là, dépendamment de où vous écoutez, sur YouTube ou sur Patreon, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas là.